Du coup, le mythe de la virilité, c'est un livre à la base d'une femme qui s'appelle Olivia Gazalet, une philosophe qui habite Paris, je crois.
Guillaume Chausson.
Je trouve ça assez marrant que ce soit une femme qui ait écrit ce bouquin. Et en même temps, aujourd'hui, actuellement, dans nos sociétés, en fait, ça, quelque part, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre qu'une femme qui l'ait fait. Parce qu'il faut bien quelqu'un pour mettre le pied dans le plat. Et force est de constater que c'est les femmes qui le font depuis quelque temps, quoi. Du coup, c'est un livre qui retrace un petit peu les constructions sociales et historiques du masculin, en fait, à travers les âges et les espaces. Puis par effet miroir, en fait, de par cette construction du masculin, on peut aussi retrouver la construction du féminin. Les constructions sociales, hein, pas le truc naturel, la chose sociale, quoi. Et ce bouquin m'a vraiment, vraiment très intéressé parce que ça correspondait en beaucoup de points à mes réflexions, en fait, sur qui je suis moi en tant qu'homme. Qu'est-ce qui relève de ma nature et de ma culture, en fait. Et puis, mon rapport avec les autres hommes, mon rapport avec les femmes. Beaucoup d'incompréhension de mon propre comportement aussi, dans ma vie. Et là, en fait, j'ai trouvé ça incroyable de lire de manière aussi facile, parce que c'est en plus une lecture très facile, ce livre, de comprendre. En fait, ça m'a donné des clés pour mieux comprendre mon comportement, en fait. D'où pouvaient venir ces trucs-là. Le mythe de la virilité, parce qu'en fait, c'est beaucoup relatif au mythe, c'est-à-dire relatif aux histoires qu'on se raconte depuis qu'on est petit, en fait. Toutes les histoires qui nous ont bercés, en fait.
La société nous raconte.
Voilà, que la société nous raconte, et puis que moi-même, je raconte à mes enfants aussi, en fait, parce que c'est une histoire sans fin, c'est un truc de culture, ça. Du coup, voilà, elle décortique beaucoup cette culture-là, ces cultures-là, parce qu'elle va chercher un peu partout dans le monde aussi. Je trouvais ça hyper intéressant.
De même que les femmes ne se masculinisent pas lorsqu'elles s'emparent de postes de pouvoir, les hommes ne se féminisent pas lorsqu'ils se montrent doux, empathiques et sensibles, ne se dénaturent pas lorsqu'ils pouponnent, repassent et font le ménage. Ils se réapproprient simplement le fait d'être un homme, en se souvenant que, de même que le yin est métaphysiquement ancré dans le yang et le yang dans le yin, tout homme comporte une part de féminin, plus ou moins importante selon les individus, et toute femme une part de masculin. Les polarités absolues et incommensurables n'existant pas dans le monde, mais uniquement comme fiction culturelle créée par les religions et l'histoire de la pensée. L'investissement masculin de la sphère privée, l'expression de la sensibilité et de l'émotion, la réinvention de la paternité et toutes les mutations déjà opérées par les hommes progressistes ne constituent pas un déclin, comme le pensent les masculinistes, mais une chance pour l'humanité, peut-être sa plus grande chance, celle d'annoncer non pas la désolante fin des hommes, mais l'enthousiasmante naissance de nouvelles masculinités, condition indispensable d'un meilleur équilibre des relations entre les deux sexes. Le mythe de la virilité, Olivia Gazalet.
Je sais pas trop pourquoi, mais je pense que c'est important de dire que j'étais blessé quand j'ai lu ça. C'est-à-dire que je pouvais pas jouer de violoncelle. J'avais une tendinite qui m'a vraiment séché et j'avais vraiment peur de pas reprendre mon activité. À ce moment-là. Du coup, j'étais un peu un homme diminué sans trop savoir si j'allais pouvoir recontinuer à travailler derrière. Je pense que le fait que j'étais dans cet état-là, peut-être que ça a aussi donner de l'importance à cette lecture-là et donner de la valeur à ce que je pouvais y apprendre. Et du coup, j'ai écrit cette pièce-là. Au début, c'était une pièce musicale. Enfin, au début, c'était juste un concept. C'était juste une idée, en fait, un état que je voulais montrer. Je croyais que c'était un solo et en fait, je me suis aperçu assez rapidement. J'ai fait le premier travail ici, au logis. J'étais tout seul pendant une semaine. Et j'ai essayé de travailler dans le sens d'un solo. Et en fait, je me suis aperçu à la fin de cette première semaine que ça pouvait pas être un solo, ce truc. Parce que la virilité, c'est pas de soi par rapport à soi, c'est vraiment de soi par rapport aux autres. Et du coup, c'est là où j'ai imaginé brancher Adrien. Donc là, j'ai écrit, cette fois-ci. Parce que Adrien étant un musicien classique, je pouvais pas travailler comme avec d'autres personnes avec qui j'ai pu travailler jusque-là, où on était plus dans une transmission orale des choses. Là, il fallait que je passe par par l'écriture,
ouais.
par l'écrit. Même si c'est très écrit quand je travaille avec d'autres personnes, mais en tout cas, c'est transmis oralement. Donc, ouais. en fait, ça passe pas par le papier. Ouais. Et du coup, ça change tout dans la construction des
ouais.
choses.
Et ça faisait pas, je fais juste une parenthèse, ça faisait partie aussi de l'attractivité pour moi.
Adrien Chausson.
Ton œuvre, parce que donc par le vecteur de l'écriture, il y a aussi une grosse part de. Il y a des passages de part d'improvisation, autant sur l'interprétation que aussi sur le choix des notes, en fin de compte, le choix du rythme, etc. Une partie de ton identité de musicien et de violoncelliste, c'est ce côté que moi, j'ai pas dans ma formation classique, qui est notamment l'improvisation. Et ça, c'est une des facettes qui m'a beaucoup attiré dans ce projet-là. M'a apporté un angle à mon travail que j'avais pas. Que je pouvais me nourrir de ça, c'était bien.
Et moi, j'ai été obligé d'inventer quelque chose du fait que je travaillais avec toi.
Ouais.
D'inventer. De découvrir le passage par l'écriture, sur une partition.
Ouais.
Et ça m'a vachement. En fait, ça m'a vachement. Ça faisait longtemps que je rêvais de ça, en fait. Mmh. Et là, ça a été pour moi l'occasion. J'ai adoré ça parce que ça permet d'aller. J'avais des frustrations, en fait. La transmission orale m'a toujours intéressé, mais en même temps, il y a une part de frustration dedans.
Ouais.
Et le fait de passer par l'écriture, et ben, toutes ces frustrations se sont envolées parce que je pouvais être d'un coup très subtil dans les harmonies, je pouvais être d'un coup être très subtil dans les rythmes.
Ouais.
Chose que tu peux faire oralement, mais sauf que ça demande un temps de dingue.
Ouais.
Et là, moi, j'ai adoré que le premier jour où je bosse avec Adrien, je lui montre la partition, on étale la partition par terre, on commence à analyser le truc, on commence déjà par l'interprétation avant même de toucher les instruments, et le soir même, on fait un filage. Ça, mais pour moi, c'était du bonheur.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, c'est les processus de création que j'ai pu vivre avant, le filage, tu le fais 2 ans après, quoi.
Ouais.
Tu vois. C'est là, on faisait le soir même. Putain, ça permet d'aller quand même. C'est une puissance, ce truc. Moi, j'ai adoré ça. Et du coup, bah voilà. Enfin, j'ai l'impression d'aller dans une étape supplémentaire dans mon travail du fait de cette contrainte de travailler avec toi, qui est un lecteur. Et ben voilà. Ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai envie de faire la même chose. Et maintenant, d'ailleurs, j'écris quasiment tout ce que je fais. Maintenant, ça passe par l'écriture.
Ok. Le projet, l'origine du mythe de la vérité, enfin en tout cas de la musique et du spectacle en soi, c'est Guillaume qui l'a imaginé. Mais ce qui m'a intéressé moi dans cette question-là et pourquoi j'y ai souvent réfléchi pendant le projet, c'est qu'en arrivant dans le projet, il y avait déjà des idées qui étaient fixées, mais Guillaume est une personne qui est très en demande et très ouvert aux propositions. Et donc j'ai tout de suite senti très rapidement que j'avais beaucoup de place pour apporter mes idées, ma patte, mais ça impliquait d'autres raisonnements qui étaient est-ce que je ne vais pas dénaturer l'idée première de Guillaume et de ce qu'il avait envie d'en faire. Et je pense que cet équilibre-là, on n'en parle pas forcément tout le temps. On essaie de ressentir l'un et l'autre, je pense. Enfin, moi, j'essaie de ressentir si Guillaume se sent frustré ou lésé par mes interventions. Mais ce n'est pas évident parce que comme il est quelqu'un de très souple... je pense qu'il est tellement ouvert sur les autres que souvent il doit se mettre de côté, je pense, dans la vie. Donc c'est pas évident de savoir tout le temps si je suis pas en train de dénaturer son œuvre.
Justement, en fait, je donne une impulsion au début et après, quelque part, j'attends une impulsion au retour. Et je vais en donner une autre après, et puis tac tac. Du coup, frustration, pas frustration, oui, il y a eu des moments où j'ai été frustré, mais en même temps, c'était... Il y a plein de moments où j'étais frustré et je me suis aperçu après que cette frustration-là, elle n'était pas parce que c'était pas une bonne idée ou parce que c'était pas là qu'il fallait aller. C'était parce que là, en l'état, à ce jour-là, j'étais pas capable de répondre à la proposition. Et parce que, en fait, des mauvaises idées, on n'a pas eu beaucoup, hein, je crois, hein, en fait, en vrai, dans notre travail pour l'instant. C'était plus des possibles, quoi. Est-ce que je suis capable ou pas de répondre à ça? Bon, à Brissac, par exemple, quand on a fait notre résidence, t'as fait des propositions. Et à ce moment-là, j'étais pas capable d'y répondre. Et en fait, j'ai travaillé en ce sens-là après, pour essayer de répondre à ces trucs-là, parce que j'étais persuadé. J'en ai parlé avec Benjamin d'ailleurs. Benjamin, c'est le danseur avec qui on travaille. Et dans le fruit de nos discussions, ça a été qu'en fait, c'est le son que tu proposais, c'était le son qu'il fallait en fait. Du coup, voilà, pour moi, c'est des allers-retours. C'est certes moi qui ai écrit le truc à la base, mais en même temps, déjà, j'ai pas tout écrit note à note.
Non, bien sûr.
Et puis après, c'est un travail d'équipe, en fait.
Oui, bien sûr, on a beaucoup discuté même avant la première fois de, qu'on ait joué.
Et puis même musicalement, je veux dire, je suis acteur aussi. C'est-à-dire que s'il y a un moment donné où ce que tu fais va pas dans le sens de ma pensée, au moment où je le joue, je vais induire quelque chose qui va te faire changer, en fait.
C'est vrai qu'il y a le vecteur à instrument. Quand tu jouais, quand tu me montrais ce que tu avais créé déjà, de par ton interprétation sur l'instrument, ça guide complètement.
Ça guide l'autre,
voilà,
c'est sûr.
Tu peux partir dans une direction complètement.
Ouais. Et puis vice versa, quand tu fais un truc, tu donnes une image. Le début de la pièce, c'est toi qui démarres. Tes premières notes, elles vont dessiner toute la première partie. Et c'est évident.
Ouais.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adrien, c'est mon cousin. Qu'on se connaît donc depuis qu'on est tout bébé, qu'on a une vie de famille aussi ensemble, qu'on a une grande famille, on est nombreux.
Beaucoup de musiciens.
Et puis moi ça fait. On a tous les deux la même pratique, lui est violoncelliste, je suis violoncelliste. Mais malgré tout, on n'évolue pas du tout dans le même environnement professionnel de manière générale. Donc a priori, en tant que violoncelliste, il y a assez peu de choses qui nous réunissent en fait. Même si on a plein, parce qu'on a quand même la même pratique, hein. On a quand même tous les deux un clou dans les mains.
Le même instrument, mais on l'utilise pas la même manière.
Et puis pas au même endroit aussi, pas avec les mêmes personnes, pas dans le même environnement professionnel, tout simplement.
Ouais.
Même si on a tous les deux quatre cordes qui sont accordées de la même manière.
Des fois, je suis mal accordé.
Ouais, moi aussi, hein, t'inquiète. Le tout, c'est d'être accordé ensemble, quoi. Et puis, pour moi c'était intéressant de proposer ce projet à Adrien parce que déjà j'ai toujours aimé le son qu'il avait, j'ai toujours aimé le travail qu'il faisait. J'y voyais que du positif dans ma pratique aussi de travailler avec Adrien. Eh ben, en fait, j'imaginais moi au début, quand j'étais branché, qu'il y aurait beaucoup plus d'opposition dans nos deux musiques. Mmh. Et en fait, très rapidement, on a cherché à se réunir.
Dans les caractères aussi,
ouais,
tu veux dire.
Dans les caractères. Et on a cherché à se réunir. Et en fait, ça, c'est un truc que j'avais pas prévu. C'est-à-dire que j'imaginais un duel au début. Et en fait, c'est devenu un duo tout de suite. Et en fait, heureusement, quand j'y réfléchis avec le recul, je me dis, ça aurait pas pu être un duel.
C'est un peu le propre des musiciens en général, enfin de la musique en général, non? C'est rare les musiques qui se confrontent.
Et justement, c'est pour ça que c'est.
C'est de la dualité.
C'est pour ça d'ailleurs que ça rejoint à ce qu'on disait au tout début, qu'un mec qui arrive avec une écriture toute ficelée, il aurait peut-être imaginé le duel tout de suite, il aurait dit, ouais, je vais faire un duel. Et en fait, ça marche pas. Ça peut pas fonctionner. Et ce truc-là, j'étais pas capable de le voir quand j'écrivais.
Ah, je comprends.
C'était un concept. Et par contre, j'ai écrit dans l'idée du duel. Sauf qu'on joue pas comme ça. Et heureusement, en fait, c'est super ce qu'on joue. Et puis je crois que c'était juste impossible, c'est un concept à la con en fait.
Non, c'est possible, mais ça aurait été créer des dissonances en permanence,
deux jeux
différents qui seraient. Voilà.
Et puis ça aurait apporté rien du tout.
Et pour l'auditeur, normalement, c'est trop de dissonances, peut-être ça fatigue quoi. Mais,
c'est ça.
Mais après, si évoquer le duel ponctuellement, c'est possible.
Et du coup, là, on est sur un duo, on cherche à marier nos sons, tout ça, et en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et ça dénature en rien le projet.
Non, parce que la viralité, on la retrouve quand même. Les différentes facettes de ce qu'on appelle la viralité, même si.
On la retrouve déjà dans les. On la retrouve déjà dans les couleurs de la musique, j'espère.
Dans l'interprétation.
On va les retrouver dans l'interprétation. D'ailleurs, c'est quand on a commencé à bosser tous les deux que ça m'a paru évident qu'il fallait qu'il y ait un danseur, justement pour mettre en exergue ce truc-là, dans le sens où lui, n'étant pas musicien, n'étant pas violoncelliste, n'étant pas instrumentiste, il peut pas avoir les mêmes armes que nous, en fait, et du coup, il est forcément à côté. Mais malgré tout, on a quand même cherché l'unité, on la cherche encore. Voilà. Il a pas d'instrument dans les mains et pour autant c'est un homme. On sera trois hommes en fait dans l'espace à chercher notre place en fait. Et notre place en tant que musicien, mais en tant que corps en fait. Lui en tant que danseur, mais en tant que corps. Et voilà. Et, On va chercher, on va se trouver, se perdre, se quitter, se retrouver. Je pense que c'est ça le mythe. Enfin, c'est ça que j'ai envie de montrer dans ce projet-là, le mythe de la vérité. Mmh. Ces trois hommes qui cherchent leur identité au milieu d'autres hommes. Et on va faire cœur à la fin. Au final, on aura vu un cœur évoluer.
Ouais, ouais, ouais.
On n'est pas à l'abri que ce soit chouette.
Ouais, bah, c'est cool. Tant mieux.